Ce matin, on termine le chapitre 12 de Marc. Nous sommes au chapitre 12, le verset 38 à 44. J'ai intitulé mon message ce matin « La damnation des faux leaders religieux ». La damnation ou la condamnation des faux leaders religieux. Je vais lire à partir du verset 38. Ils, donc parlant de Jésus, leur disaient dans son enseignement « Gardez-vous des scribes qui aiment se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et il y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, comme vous le savez, j'aime bien nous replonger dans le contexte. Il est mercredi, 2 jours avant la mort de Jésus, et nous nous trouvons dans le temple à Jérusalem. Jésus vient d'humilier publiquement les pharisiens en répondant de manière majestueuse à 3 questions pièges qu'ils avaient tendues à Jésus afin de le discréditer aux yeux du peuple, mais aussi de Rome. Vous vous rappelez la question sur le tribut à César, question sur le mariage dans le ciel et question sur le plus grand commandement. Puis Jésus leur pose à son tour une question sur la nature du Messie à venir, Messie que l'Ancien Testament appelle le fils de David. Jésus leur prouve qu'il est lui-même non seulement fils de David, mais aussi le Seigneur du roi David. Ça, on l'a vu la dernière fois. Mais bien sûr, il reste sourd à cette affirmation. Et ceci nous amène à notre texte d'aujourd'hui. Alors, notez en premier à qui Jésus parle. Au verset 37, il est dit, David lui-même, à la fin du verset 37, et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement au verset 38. Donc Jésus, dans les versets que nous voyons aujourd'hui, parle à la foule qui s'était réunie autour de lui pour qu'il écoutait discuter avec les scribes et les pharisiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est le dernier discours public de Jésus. C'est la dernière chose qu'il va laisser au peuple, aux gens qui l'écoutent. Alors je me dis, voilà, si c'est ton dernier discours à la foule, c'est quoi ton dernier discours? Tu vas leur parler de quoi? Eh bien, voici ce qu'il va leur dire. Je résume. Que les scribes et les pharisiens sont des faux enseignants, des faux prophètes, qu'ils sont sous la condamnation éternelle de Dieu, que l'enfer éternel leur est réservé, et qu'il ne faut surtout pas leur prêter attention et surtout ne pas les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils mènent les gens dans l'erreur, car ils ne sont rien d'autre que des assassins hypocrites inspirés pas par Dieu, mais par Satan. Vous dites, John, c'est pas un peu fort ce que tu viens de dire? Mais écoutez, c'est pas la première fois. On va regarder ça en détail, d'accord? Dans Matthieu 15, au verset 1, « Alors les pharisiens et les scribes vinrent à Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi des disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne lavent pas leurs mains quand ils prennent leur repas ?» À quoi Jésus leur répond, verset 3 du chapitre 15 de Matthieu, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ?» Verset 6, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et ensuite, au verset 12 peut-être, alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par ces paroles que tu viens de leur dire ?» Ben oui, ils ont été offensés. Il répondit, « Toute plante qui n'est pas plantée, mon Père céleste sera déraciné, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Jésus ne mâche pas ses mots lorsqu'il condamne les pharisiens, et ça, c'est que le début. Dans notre texte, donc, de Marc chapitre 12, Jésus dénonce ouvertement et de manière virulente, et sans mâcher ses mots, ses faux enseignants, criminels et sataniques. Jésus a vu juste, car deux jours plus tard, que font-ils? Ils assassinent Jésus en le clouant sur une croix. En fait, la condamnation que nous allons voir maintenant, c'est un condensé de cette condamnation beaucoup plus longue qui se trouve dans Matthieu 23, 36 versets, où 8 fois Jésus commence sa dénonciation en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens !» On en regardera quelques-uns. Et ce qu'on va voir, c'est que Jésus n'a aucune tolérance pour ce genre de faux prophètes, ceux qui enseignent ce faux évangile, qui rejettent le Messie, qui rejettent les Écritures et les tordent, ces gens-là, dit-il, sont voués à la perdition. Donc c'est du draconien et du radical ici. Alors, je vais découper très simplement en 4 parties. Premièrement, l'avertissement ou leur avertissement, verset 38. Verset 38, il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. » Les scribes et les pharisiens, en fait, étaient de la... ils sont différents, mais d'un même parti. Ils étaient les scribes, les experts légaux de la loi, les avocats de l'époque. Et cela dans tous les domaines. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était une théocratie. Cela voulait dire que les hommes spirituels, ou qui étaient censés être spirituels, menaient le pays, le Sanhédrin. C'était, je dirais, la cour suprême qui menait le pays. Et donc les scribes étaient les experts pour tous les domaines. Ils étaient les experts de la loi. De la loi, de la Bible. Et donc, ils étaient les experts sur comment l'appliquer au niveau de la famille, peut-être au niveau de business, de travail, dans tous les domaines de la vie. Ils étaient bien plus que les enseignants, mais des interprètes. C'est eux qui décidaient comment appliquer la loi aux diverses situations de la vie. C'est un peu comme les avocats aujourd'hui. Les avocats sont appelés à interpréter la loi et l'appliquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient donc appelés à être les protecteurs du peuple. Mais le problème, c'est qu'ils faisaient l'opposé, et ça, on va le voir. C'est pour ça que Jésus commence, hein, c'est assez draconien. Gardez-vous des scribes. Attention, faites attention vis-à-vis des scribes. Si Jésus commence comme cela, ça veut dire qu'ils étaient vraiment corrompus. Alors la question se pose, est-ce qu'ils étaient tous corrompus? Non, pas tous. Mais beaucoup. Mais beaucoup. Et on sait que c'est draconien parce qu'au Matthieu 23, Jésus les appelle les fils de la gêne. Gêne, c'est l'enfer. Fils de l'enfer. Et appelle leurs disciples 2 fois fils de l'enfer. Il dit, faites attention. Ils sont dangereux. Ils vous mèneront droit à l'enfer si vous les écoutez. C'est quand même draconien. Cela veut dire que ces scribes, ces pharisiens, n'étaient pas ce qu'ils se faisaient passer pour être. Ils se faisaient passer pour les leaders justes du peuple, mais en fait, ils étaient des hypocrites corrompus. Et Jésus dit, gardez-vous, faites attention. C'est pas la première fois qu'il le dit, on l'avait déjà vu dans Matthieu 15, mais dans Matthieu 7 et le verset 15, vous rappelez, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Waouh! Donc, il faut les reconnaître. Comment faire? Deuxième grand point, leur crime. Il faut les repérer par leurs crimes, par leurs erreurs. Alors, il en donne dans notre texte ce matin 6. 6 erreurs, 6 crimes. D'accord ? Regardez, Marc 12, verset 38. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes, premier crime, qui aiment se promener en robe longue. » Là, vous savez pourquoi je ne m'habille pas en robe, d'accord ? Non, ce n'est pas vraiment la raison, d'accord ? Alors, dans Nombre 15, verset 38, il est dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Et quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs, de vos yeux, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années en arrière, il y avait une mode, c'était des bracelets qui disaient « What would Jesus do ?» hein? Et le but de cette mode, c'était chaque fois que tu regardais ce bracelet, c'est pour te rappeler « Ah, attends, écoute, je suis chrétien, qu'est-ce que Jésus ferait ?» Alors l'idée des franges, c'était pareil. C'était une prescription de Dieu, des franges bleues qu'on mettait, et chaque fois qu'on les regardait, c'était « Ah, what would Jesus do ?»« Ah, attention, je suis là pour honorer le Seigneur. » Donc, l'idée des franges était tout à fait bonne, et ce mot est même utilisé dans Matthieu 9, 20, Jésus les portait aussi. Donc, c'était pas mal. Des robes avec des franges. Mais, comme tout signe extérieur, il peut y avoir danger. Peut-être certains mettaient 4 bracelets de chaque côté pour leur montrer « Waouh, tu vois, moi je suis vraiment spirituel. Oh, » Certainement pas, mais ça pourrait. Mais ici, les scribes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rallongeaient ces franges pour leur donner une apparence de plus grande spiritualité auprès du peuple. Voilà, pour se faire passer pour plus spirituel qu'il était vraiment. Matthieu 23, 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc on voit tout de suite que leur spiritualité n'était pas une spiritualité de cœur, mais externe. Ils voulaient être vus comme étant spirituels. Deuxième crime. On le voit au verset 38. Et ils aiment à être salués dans les places publiques. Alors n'oublions pas, ces hommes étaient les chefs religieux du pays, dans une théocratie, ils étaient le top du gouvernement, on pourrait le dire. Tout le monde les connaissait. Et ils aimaient être adulés en tant que tels. Notez qu'ils aimaient aller dans les places publiques pour être adulés. Waouh! Alors Matthieu 23, de nouveau, donne le détail à partir du verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ils aimaient bien aller dans les places publiques avec leurs longues franges et que les gens disent « bonjour Rabbi ». Ah, super, ça sent tellement bien, j'aime bien le son, tu vois. Bonjour mon père. Moi, je me rappelle quand j'habitais à Paris, on avait un voisin, il avait environ 90 ans, il m'a demandé un jour, écoutez, monsieur, comment est-ce que je dois vous appeler mon père ? Moi, j'avais 28 ans. Tu vois, je me dis, non, écoutez, là, franchement, c'est pas du tout ça, d'accord ? Non, c'est une tendance qu'on trouve, en fait, aussi, parfois, surtout dans mon pays d'origine, les États-Unis, hein, docteur, c'est très à la mode. On appelle tout le monde qui est docteur, docteur. Alors, est-ce que c'est un mal d'avoir un titre ? Non, c'est pas nécessairement un mal. Jésus était appelé Rabboni. il n'a pas nécessairement dit « il ne faut pas m'appeler ainsi ». Non, mais les titres peuvent être dangereux, surtout si on veut l'entendre. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Moi, il y a déjà des gens qui m'ont demandé « mais comment est-ce que je devrais vous appeler ?» Moi, je dis « c'est simple, John ». C'est comme ça que Paul voulait qu'on l'appelle et que Jésus voulait qu'on l'appelle, d'accord ? Paul, Jésus, John, c'est pas un problème. Non, le problème, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est la recherche du titre, la recherche de l'honneur. Ça, c'est une des caractéristiques des faux prophètes. Parce que les faux prophètes ne sont pas humbles, ils sont orgueilleux. Et ils ont besoin d'être élevés et d'être honorés, et donc ils recherchent cela. Et on le voit dans certaines religions, même chrétiennes, où il y a tout un tralala vestimentaire pour qu'on voit qui est qui. Troisième crime. Verset 39. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues. Dans les synagogues, il y avait un banc au devant de la synagogue, juste à côté de l'arche ou du coffre où les rouleaux de la Torah étaient gardés. Ce banc était positionné face au public qui était réservé pour les gens d'honneur et de distinction. Les scribes, nous dit Jésus, aimaient cette marque de distinction. Ils voulaient être invités à la synagogue, se mettre devant la vue de tout le monde. Tu sais, il y a aux infos cette semaine, peut-être vous avez vu ça. Vous savez, en France, il y a l'Assemblée générale. Et tous les députés viennent et ils s'assiedent, puis ils débattent et ils font leurs lois. Alors, apparemment, les députés, le mardi et le mercredi, ces séances sont transmises en direct à la télévision. Et donc, il y a un certain député, c'est à la télé, c'est pour ça que je vous le dis, qui s'appelle Lucien Dégauchy, député UMP de l'Oise. Alors lui, il a trouvé la combine pour être vu. Il met toujours une veste jaune vif. Tous les autres mettent des complets foncés d'habitude. Lui, c'est jaune vif. C'est ce qu'ils disent. Et on l'a vu à la télé, c'est ce qu'il montrait. Donc, c'est une manière de se distinguer. Et l'autre chose, et ça je lis, autre tactique, vêtu de jaune, donc, le député n'hésite pas à changer de place, il se déplace pendant la séance pour s'installer à côté du parlementaire qui prend la parole, sur lequel vont se braquer les caméras de l'Assemblée. Donc la prochaine fois que vous regardez cette Assemblée, vous verrez toujours ce gars habillé en jaune. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai, il est toujours là parce qu'il se déplace pour être vu. Comme ça, ses électeurs se disent « Waouh, il est toujours là ce gars-là ». J'ai trouvé vraiment assez rigolo. Parce que ce n'est pas que dans le monde religieux que ça se passe, ça, vous voyez ? Vraiment intéressant. Quatre. Verset 39, il recherche les premières sièges du synagogue et les premières places dans les festins. À l'époque, on se mettait à table, allongé sur des gros coussins. Eh bien, comme aujourd'hui, il y avait des places d'honneur. De nouveau, dans mon pays, aux États-Unis, s'il y a une table longue, je pense que c'est pareil ici, les places d'honneur sont aux extrémités de la table. Et souvent, aux États-Unis, c'est les hôtes, monsieur et madame, qui se mettent aux extrémités, puis les invités. Mais s'il y a un invité de distinction, ben peut-être on va dire, ben non, c'est l'invité de distinction qu'on va mettre sur l'extrémité de la table pour honorer la personne. Mais alors, eux, ils recherchaient cette place de distinction. Vous savez, quand les gens s'assiedent, c'est toujours un petit peu un moment, on ne sait jamais où on s'assied, donc tout le monde attend, c'est ce qu'on devrait faire. Mais eux, ce qu'ils faisaient, ils allaient vite prendre la meilleure place et peut-être s'asseoir, parce qu'ils la voulaient. Ils ont fait une grosse gaffe, ils auraient dû lire Luc 14. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Verset 7. Donc là, il va parler aux pharisiens qui sont dans cet endroit, dans cette maison. Il adresse ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils avaient choisi les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, Ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède ta place à cette personne-là ». Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Vous voyez, c'est une question d'humilité. C'est une question d'humilité. Ce n'est pas un mal d'être honoré, mais c'est un grand mal de chercher l'honneur. C'est très différent. Et voilà leur problème. Cinquième prime. Verset 40. Ils dévorent les maisons des veuves. Ils dévorent les maisons des veuves. Mais il y avait à l'époque quasi personne aussi vulnérable que les veuves. Peut-être les orphelins. Si quelqu'un avait besoin d'être protégé, c'était bien les veuves. Et à l'époque, les veuves n'avaient pas toutes les aides gouvernementales que nous avons aujourd'hui dans nos pays et notre époque. Dans Exode 22 et le verset 21, l'Ancien Testament déjà en parlait de manière très claire. Il est dit « Tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Non, la Bible est très claire. Les gens, il y a certaines personnes qui ont des grands besoins et nous devons les aider. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 5, et le verset 5, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu, nuit et jour, dans les supplications et dans les prières, c'est elle qu'il faut mettre sur la liste de l'Église. » L'Église a une responsabilité d'aider les veuves qui sont peut-être dans le grand besoin. Et vous rappelez bien sûr de Jacques 1, 27, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. » Donc la Bible est claire par rapport à comment traiter les veuves. Ben, quand vous allez les scribes, ben regardez, c'est étonnant. Regardez le verset 40. « Eux dévoraient les maisons des veuves. » Dévorer. Dévorer. Vous savez ce que ça veut dire, dévorer ? Ça veut dire manger. Manger. Ils les mangeaient, ces veuves. Comment ? En les dérobant. En les dérobant. Les scribes avaient un mobile, s'enrichir. Et les veuves étaient des proies faciles. Des femmes âgées qui vivaient seules dans le deuil, qui étaient prêtes à recevoir des conseils de gens bien, de gens spirituels. Les scribes. Mais ce dont ces veuves ne se doutaient pas, c'est que ces scribes étaient cupides et voleurs et prêts à les dévorer. Les scribes gagnaient la confiance de ces veuves, pauvres ou fortunées, les aidaient avec les formalités pour leur bien après un décès de leur mari, c'était compliqué, on peut imaginer, leur donnaient des conseils légaux, puisque c'était aussi les avocats, pour leur bien, leur argent, leur maison, si elles en avaient, et trouvaient des combines pour rafler des biens pour eux-mêmes. Comment ? Peut-être par des commissions scandaleuses, ou peut-être en suggérant qu'ils méritaient des présents personnels. C'était de l'extorsion pure et simple. Une manière encore plus spirituelle de les extorter, c'était d'expliquer qu'elles devaient donner plus pour l'œuvre de Dieu. Aller au temple et donner, ou à leur donner personnellement. Vous dites, non mais John, il ne faisait pas ça quand même, vraiment ? Vraiment, il faisait ça ? Mais ouais, je me suis aussi posé la question, je me suis dit, est-ce que je lis bien le texte ? Ben regardez juste avant, dans le chapitre 11 et le verset 17. Marc 11, verset 17. Jésus enseignait, disait, « N'est-il pas écrit, ma maison serait appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Donc il est en train de dire, là, aux scribes et aux pharisiens, que la maison de Dieu était en fait un endroit où on volait les gens. Et ça, on l'avait déjà vu avec les commerces, la manière qu'ils vendaient et qu'il y avait tout un trafic par rapport aux offrandes et les agneaux qui vendaient tous les animaux, ça, on l'avait déjà vu. Bah, si déjà ils volaient le monde à perte de vue lorsqu'ils venaient et achetaient les sacrifices, eh bien, dans la même lignée, là, ils étaient en train de voler les veuves. Et regardez la réaction, après, lorsqu'il leur dit ça au verset 17, « Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, parce qu'ils le craignaient, parce que la foule était frappée de leur doctrine, mais bien sûr, il avait dévoilé leur péché, et leur meurtre et leur vol. » Donc ils ont peur, ils disent « Il faut l'éliminer ce gars, il nous dévoile. » Vous dites « Mais vraiment, bah écoutez, regardez 2 Pierre 2, rien n'est nouveau mes amis, rien n'est nouveau. » Il est dit ceci par rapport aux faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple, 2 Pierre 2, des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez verset 3. Par cupidité, désir de s'enrichir. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux, que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Et le verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Un des traits flagrants de faux docteurs, c'est la cupidité. Ils cherchent des moyens de s'enrichir sur le dos de leurs fidèles, personnellement. Vous savez, il y a tellement d'exemples. Il ne faut pas être dans l'église pour voir les exemples, on peut le voir à l'extérieur de l'église. Vous connaissez Eliane Bettencourt? C'est un nom, hein, elle s'appelle bien Hélène? Liliane Bettencourt. C'est une des plus grandes fortunes de France. Je ne connais pas très bien son cas, mais tout ce que je sais, c'est que chaque fois qu'elle est dans les nouvelles, c'est parce qu'il y a des gens qui auraient profité injustement des largesses de cette dame. Ben oui, les gens se sont liés amitié avec elle pour recevoir des dons. Et c'était des monstres dons. Puis aujourd'hui, la famille se dit, mais c'est scandaleux. Écoutez, ma propre mère, qui est en maison de retraite aux États-Unis, certains de ses bijoux ont été volés par des personnes qui ont profité d'elle. C'était évident. Je vous raconte une histoire brève, mais incroyable. Ma grand-mère aimait beaucoup les antiquités. Elle était aux États-Unis. Un jour, je venais de rentrer dans le ministère. Elle me dit, John, écoute, j'aimerais te donner quelque chose. Je dis, c'est sympa, merci. Et viens avec moi. Donc, on va dans son salon. Derrière le canapé, il y avait un mur. Et il y avait des carreaux dans ce mur. Elle a enlevé un carreau qui était aimanté pour révéler un coffre-fort. Elle dit, je vais te donner quelque chose. Alors, imaginez mes yeux, waouh, tu vois. Alors, elle ouvre le coffre-fort, elle sort cette boîte. Elle a dit, John, j'ai quelque chose pour toi. Elle me dit, tu sais que ton grand-père et moi, on a beaucoup voyagé, on est allé en Russie, on est allé beaucoup d'endroits. Et quand j'étais en Russie, elle a dit, j'étais dans un antiquaire. Et cet antiquaire m'a montré une croix. La dernière croix des tsars. La dernière croix qui est sortie de Russie, plein de bijoux incrustés. Elle a dit, je l'ai achetée. Ensuite, nous sommes allés à Londres. J'ai acheté une super belle chaîne en or pour la mettre. Et je l'ai mis dans cette boîte. Et quand tu es devenu pasteur, je me suis dit, c'est toi qui devrais avoir cette croix. J'étais là, j'ai les yeux comme ça. Je me suis dit, c'est incroyable ce qu'elle me raconte. Alors, elle sort cette croix, je vais vous la montrer. La voilà. La dernière croix des tsars russes, incrustée de bijoux. Je dis, écoute, merci, je la remets dans la boîte, je la mets dans mes valises, je la cache, je la ramène et je la mets dans mon tiroir pendant des années. Et le jour arrive où on aimerait acheter une maison. Je me dis, génial, il me faut un apport personnel. Je vais chercher ma petite boîte, je me dis, je vais aller à Christie's. Donc je mets mon complet, cravate rouge, je descends à la vieille ville, je prends un rendez-vous, je leur explique, oui, écoutez, j'ai une croix de grande valeur, russe, machin, truc. Le gars dit, oui, alors je vous reçois, rendez-vous, on rentre dans Christie's, il me dit, écoutez, montons, alors on monte en haut, dans des chambres hyper calfeutrées, des lampes et tout, super classe, moi je suis classe et tout. Il dit, monsieur, montrez-moi l'objet. Alors, je sors l'objet, je suis tout fier. Il prend la croix. Alors, vous savez, il a une grosse loupe. Et là, avec les spots, il regarde cette croix. Il regarde un silence. 5 minutes, il regarde tout la chaîne, tout. Ensuite, il me dit ça. Monsieur Glass, aucune valeur. J'ai dit, excusez-moi. Il a dit, aucune valeur. La croix n'est pas en or, les bijoux sont tous en plastique, et la chaîne achetée à Londres n'est pas en or. Maximum 200 francs. J'étais là, mais j'y croyais pas. J'étais, mais c'est incroyable cette histoire. Vous savez quoi? Ma grand-mère a été roulée royalement dans la farine en Russie et à Londres. Et ça, c'est par des antiquitaires. Des antiquaires. Je ne sais pas si j'aime les antiquaires aujourd'hui, vous savez. Non, je suis sûr qu'il y en a des honnêtes, d'accord? L'année passée, il y a un certain Benny Hinn, vous connaissez? Un prédicateur très connu aux États-Unis. Il était à Annemasse, je suis allé l'écouter. Pendant 1h15, il a fait l'offrande. 1h15. J'ai calculé, j'ai chronométré. À un moment donné, il a sorti des enveloppes vides, des enveloppes à 500 euros. Il a dit, ce soir, donnez 500 euros. Je vais les oindre, l'huile. Il avait de l'huile. Il oignait les enveloppes d'huile bénie. Il disait, donnez, et si vous donnez ce soir, Dieu va éliminer vos dettes. J'ai entendu ça de mes propres oreilles. Les gens sont venus, des centaines de personnes, donnez. Moi, je regardais ça, je me disais, mais mes amis, réfléchissez un peu. C'est exactement, mes amis, ça c'est la doctrine de la prospérité, c'est ce qui se passait ici. Je ne veux pas exagérer, mais c'est exactement ce qui se passe ici. Il dévorait les maisons des veuves. Il profitait de ces personnes faibles pour les rouler. Et regardez le sixième crime. Il dévore les maisons des veuves qui font pour l'apparence de longues prières. Ça, c'est le sixième crime. Par apparence, il volait d'un côté les veuves et ensuite il faisait des longues prières pour être bien vu comme étant plus spirituel que les autres. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cette caractéristique est juste après celle du vol des veuves? Peut-être que les longues prières se faisaient pour couvrir leur crime d'avoir dévoré les veuves. Il fallait se faire passer pour encore plus spirituel, puisqu'ils étaient en réalité des criminels. Et peut-être qu'ils priaient ces longues prières devant les veuves, justement pour pouvoir les extorquer encore plus de leurs biens. Bref, tout ça, mes amis, c'est écœurant. Écœurant, écœurant, écœurant. Spurgeon a dit, priez longuement lorsque vous êtes seul et courtement en public. Nous comprenons pourquoi. Alors, quel est, troisième grand titre, leur condamnation? Leur condamnation. La fin du verset 40 dit, ils seront jugés plus sévèrement. ils seront jugés plus sévèrement. Dans Matthieu 23, verset 13, c'est intéressant. Voici déjà ce qu'ils vont recevoir, parce que Jésus le dit au Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc il dit déjà ici, de toute façon, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Au verset 15, il est encore plus direct. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, donc un converti, et quand ils sont devenus, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Vous allez droit en enfer et vos disciples vont deux fois plus en enfer que vous. » Alors vous dites, mais je ne comprends pas. Ben, honnêtement, moi non plus. Comment est-ce qu'on peut avoir deux fois la dose d'enfer? Comment est-ce qu'on peut être jugé encore plus sévèrement que l'enfer? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il est dit. Et le verset 33, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne ?» Mes amis, c'est vraiment du radical ici. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. Ça m'a beaucoup fait réfléchir cette semaine. Dans Jacques 3, 1, il est dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ben oui, parce qu'un enseignant influence les autres. Donc celui qui enseigne est jugé plus sévèrement que celui qui n'enseigne pas. Et dans Hébreux 10, 29, juste pour montrer qu'il y a, il y a plus de jugement, moins de jugement, c'est assez intéressant. Je peux vous lire, mais sans vraiment bien l'expliquer. Il dit, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu ?» Donc il y a un châtiment et un pire châtiment. Quoi qu'il en soit, quelle est la leçon ici? Que Dieu est impitoyable avec ceux qui induisent d'autres dans l'erreur en pleine connaissance de cause. Impitoyable. Et ça fait réfléchir. Il y a des gens qui disent « Ouais, tu sais, il y a du bon dans toutes les religions. » Ah bon? Il y a du bon dans toutes les religions? Je ne pense pas que Jésus est d'accord avec vous. Alors, ça, c'est leur crime. Quatrième et dernier point, leur vol. Alors là, on arrive à des versets vraiment intéressants. Les versets 41-44, cette histoire de la veuve à deux pites. Alors, j'avoue que j'ai un problème, là je vous livre, d'interprétation de ce texte. D'accord ? Je ne sais pas comment interpréter cette histoire, honnêtement. Les commentateurs sont divisés sur comment l'interpréter, et moi aussi. Alors, je vais vous livrer les deux interprétations, ensuite je vais vous donner mon opinion, mais je peux être corrigé, d'accord ? La question de base est celle-ci. Cette nouvelle histoire de cette veuve qui vient donner de l'argent, est-elle liée au contexte précédent ou pas? Ça, c'est la question. Si elle est liée, il y a une interprétation. Si elle n'est pas liée, donc c'est un nouveau sujet différent que celui qui vient d'y avoir. Et les deux cas de figure dans les évangiles, parfois, il y a le contexte qui clairement montre qu'une histoire est liée à celle qui précède. D'autres moments, c'est peut-être trois jours plus tard, il y a un nouvel incident qui arrive. Donc, comment interpréter cette histoire? Alors, je vous donne les deux interprétations, d'accord? C'est parti, regardez, ça c'est marrant. Alors, la première interprétation, c'est que le récit de la veuve à deux pites n'est pas lié. C'est une nouvelle histoire, d'accord? Aucun lien avec ce qui vient de se passer. Le thème change complètement. C'est une histoire sur la libéralité d'une pauvre veuve qui donne généreusement de l'argent. Verset 41, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, il vient de terminer sa conversation, sa condamnation des pharisiens, il va dans une autre section qui s'appelle la trésorerie, et là, il s'assied parce qu'il est fatigué, et il regarde des gens mettre de l'argent. Alors, le mot « tron » est une référence à 13 réceptacles conçus pour recevoir des contributions des fidèles. C'était ce qu'on appelait les chauffards. Ils étaient en forme de trompette. Il y en avait 13. On indiquait sur chacune ce pourquoi était l'argent. Le Mishnah nous dit que 6 de ces réceptacles étaient conçus pour des offrandes volontaires. Donc, il s'assied et il regarde les gens qui viennent et qui donnent. Alors, verset 41 nous donne un détail important. Il regardait comment la foule y donnait. Comment ? Apparemment, il veut regarder le mobile. Et on apprend que plusieurs riches mettaient beaucoup. Alors, comment est-ce qu'il savait que des riches mettaient beaucoup ? Plusieurs possibilités. Peut-être il y avait plus de pièces, donc on entendait le bruit des pièces. Peut-être la manière de se tenir, leurs vêtements, leurs bijoux, leurs serviteurs. Ou peut-être c'est parce qu'il est Dieu et il connaît toutes choses. Le verset 42, il vint aussi une pauvre veuve, elle mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Donc il y a une pauvre veuve, elle vient aussi, elle a 2 pièces, des leptons. En fait c'est marrant, j'en ai une ici. J'ai acheté ça en Israël, c'est une pièce qui s'appelle un lepton. Donc vous ne me la volez pas, hein. Il m'a demandé si je me suis fait rouler dans la farine par cette pièce. Probablement, d'accord. Alors, c'est ou bien une pièce réelle ou c'est certainement en plastique. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît, vous pouvez la tester, d'accord. Mais bon, ça montre un petit peu de quoi ressemblait cette petite pièce. Alors, il ajoute ici que ça faisait un quart de sou, un caudron. Pourquoi? Parce que cet évangile est écrit aux Romains. Ils voulaient que les Romains comprennent dans leur pièce. Cette plus petite pièce romaine, elle représentait 1/64 d'un denier. Et un denier, c'était le salaire journalier d'un travailleur. Donc, 1/64. Alors moi, j'ai pris l'équivalent suisse. Imaginons 20 francs par heure pour 8 heures, ça fait 160 francs par jour. Divisé par 64, ça fait 2,50 francs. Alors, ça paraît beaucoup hein, ici en Suisse. Mais bon, elle en avait 2. Donc, elle avait un total de 5 francs ou une thune. D'accord ? Mais regardez, que représentaient ces deux sous pour elle? Eh bien, c'est ce qu'on veut voir au verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, il dit, elle a donné plus que les autres. En fait, c'est faux. Alors, je ne dis pas que Jésus a... Mais c'est faux dans le sens qu'elle n'a pas mis plus d'argent. Mais proportionnellement, par rapport à ce qu'elle avait, elle a mis beaucoup plus. Eux, ils avaient mis de leur superflu, les riches, mais elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, ces 5 francs, imaginez, j'essaie de m'imaginer ça, tu as 2 fois 2, 50, 5 francs, c'est tout ce qui te reste, plus rien après ça. C'est les derniers 5 francs que tu possèdes de ta vie. La totalité de sa fortune. Et ce jour, elle décide de le donner au temple. Tout ce qu'elle avait. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle devait penser avant d'y aller au temple? Elle regarde ses 2 pièces. Elle dit, je pourrais m'acheter 1 ou 2 pains. Non, je vais tout donner au temple. Elle aurait pu dire, je donne une pièce et je garde l'autre. Non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a tout donné. Un acte délibéré, réfléchi. Elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Et une fois que ces 2 pièces étaient dans le réceptacle, c'était terminé. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a fait 100% confiance au Seigneur. Ça, c'est la première interprétation. Un geste incroyable de libéralité. Et ce n'est pas faux. C'est un geste incroyable de libéralité. 2 Corinthiens 9, et le verset 6 à 8 dit ceci. Nous sommes prêts... Non, pas du tout ça. Plutôt ici, voilà, verset 6 de 2 Corinthiens 9. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore abondance pour toute bonne œuvre. Donc voilà, cette dame d'un cœur énorme donne tout ce qu'elle a, elle fait confiance au Seigneur pour pouvoir. Et donc ça devient donc l'exemple de générosité que nous devrions avoir lorsque nous donnons. Donc, application, donnons au Seigneur généreusement sans trop calculer. Deuxième interprétation. La veuve est un exemple sur comment les scribes, ça se dit bien extorquer, c'est juste. Extorquer, d'accord. La veuve est un exemple sur comment les scribes extorquaient les veuves de leur argent. Elle est une victime d'un système corrompu. Et cette interprétation la lie avec le contexte. Alors, la première interprétation que je viens de donner est de loin la plus populaire. Celle-ci, elle est plus rare. J'ai trouvé que dans deux de mes commentaires. Je vous la livre. Cette femme n'est en fait pas un bon exemple de libéralité, mais plutôt un triste exemple des conséquences des scribes qui extorquaient tout le monde financièrement et surtout les pauvres veuves vulnérables. Alors, ce qui est intéressant et convaincant, c'est le contexte. Dans le verset 40, il est dit ceci, que ces scribes dévoraient les maisons des veuves. Et là, on a l'impression que peut-être, alors il donne maintenant un exemple concret de comment il le faisait pour dévorer ses veuves. Cette deuxième interprétation conclut que la corruption des scribes était envers tous, les riches comme les pauvres, que les riches donnaient beaucoup dans le tronc, et peut-être trop du fait qu'ils se faisaient eux aussi manipuler pour donner, et que les veuves, par manipulation et par culpabilité, donnaient tout ce qu'elles avaient au point de se ruiner financièrement pour le faire, pensant qu'elles faisaient bien. Elles étaient donc rien d'autre que des victimes d'un système religieux corrompu. Regardons cette lecture rapidement, on a déjà vu les détails. Au verset 40, Jésus vient de condamner les scribes pour leur crime envers les veuves. Au verset 41, il s'assit au tronc et il voit que les gens donnent et que les riches mettaient beaucoup. Ben, les riches aussi, selon cette interprétation, sont manipulés. Les riches donnaient beaucoup, peut-être avec fierté. C'est vrai, quand je regardais Bénin, là, tous ces gens qui avec leurs enveloppes, c'était horrible de voir comment ils faisaient. Franchement, là, ça m'a écœuré. Est-ce que c'est le cas ici? Le système disait, donne beaucoup et tu seras béni beaucoup. Donne. Sachant que c'était pour un enrichissement personnel, pas pour l'œuvre de Dieu. Très différent. Donc, les riches donnaient, mais pour les mauvais motifs. Ce n'est rien d'autre que l'évangile de la prospérité. Donnez et vous serez bénis et vous deviendrez plus riches. Mais le verset 42, il y a une pauvre veuve maintenant qui arrive. Elle met ses deux petites pièces. Oui, elle a donné plus que tous les riches, proportionnellement parlant, c'est vrai. Les riches ont mis de leur superflu, mais elle... Ils avaient encore des réserves, mais elle, la veuve, a tout mis ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et donc, selon cette interprétation, cette veuve victime d'un système corrompu appauvrissait les gens au lieu de les aider. Donne beaucoup et tu seras béni beaucoup, mais c'est mes deux dernières pièces pour vivre, donne-les. Est-ce que la Bible encourage les croyants à donner tout ce qu'ils ont pour vivre, tout leur argent? Est-ce que la Bible appelle les gens à s'appauvrir, mais vraiment jusqu'à la misère pour l'œuvre de Dieu? Non, pas du tout. Absolument pas. 2 Corinthiens 8, 3 nous dit clairement comment nous devrions nous y prendre. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Au-delà de leurs moyens, bien sûr, on peut donner de manière sacrificielle et on devrait le faire, mais selon leurs moyens, c'est la clé, mes amis. 1 Corinthiens 16, il est dit, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Même dans acte 2, lorsqu'il y a eu un élan de générosité, certains donnaient des maisons et des propriétés, mais pas tout ce qu'ils possédaient. Ils donnaient des terrains. Pas tous. Certains tous, mais pas tous. Acte 4, 36 et 37. Donc, cette lecture du texte conclut que cette femme donnait ainsi parce qu'elle était incitée à le faire par les scribes qui dévoraient les veuves. Et dans Matthieu 15, il les condamne aussi parce qu'ils gardaient certains de l'argent qui était dû à leurs parents pour le donner au temple. Et ils disaient, c'est très bien ce que vous faites. Vous vous rappelez dans Matthieu 15? Dans 1 Timothée 5, 4, 8, il dit que celui qui n'aide pas sa famille financièrement est pire qu'un infidèle. Parce que si je donne tout, je ne peux pas aider ma famille. Et il y a un autre argument assez intéressant. Si vraiment cet exemple, c'était, ouais, écoutez, il faut tout donner comme cette veuve. Pourquoi est-ce que Jésus alors a pas dit à ses disciples, écoutez les gars, ça c'est l'exemple primaire. Judas prend la bourse, on donne tout. Il n'a pas fait ça. Ils n'ont pas donné leur argent, ils n'ont pas du tout fait ce que la veuve a fait. C'est intéressant. Mais vous dites, mais puis quoi le jeune homme riche? Ah non, oui, le jeune homme riche, Jésus a dit, vends tout, donne aux pauvres. Mais ça c'est parce que sa richesse était son idole, il devait se repentir de son idole. Si c'est ton idole, donne tout. Oui, cette interprétation montre cette veuve, la dévoile comme une victime du système. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Luc 16, 14 dit tout simplement, les pharisiens étaient avares. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une personne qui s'appelle Crafto Dollar. C'est un évangéliste américain, excusez-moi. Ah, l'Amérique. Crafto Dollar est le pasteur de l'église World Changers International, une église de 30 000 membres, apparemment à Atlanta, un pasteur de la prospérité. Il a déjà 2 Rolls-Royce, une fortune personnelle estimée à 27 millions de dollars. Vous allez sur Internet, regardez, d'accord? C'est intéressant. Depuis quelques mois, il demande que 200 000 personnes lui donnent un don de 300 dollars ou plus. 200 000 personnes. 300 dollars chacun, afin de lui permettre d'acheter un jet privé qui coûte 65 millions de dollars, un Gulfstream 650, pour mieux pouvoir répandre l'évangile dans le monde. Absolument vrai. Je sais de quoi je parle parce que mon frère est pilote pour un homme richissime et ils viennent d'acheter cet avion. C'est le dernier cri des jets privés. 65 millions de dollars et cet évangéliste vous demande de lui donner 300 dollars pour qu'il puisse acheter son jet privé. Et vous savez, je vous parie qu'il y a un paquet de veuves qui vont le faire. Alors, quelle est la conclusion ici? Sur ces deux interprétations, vous voyez peut-être là où moi je penche, pour la deuxième, mais je peux être dans l'erreur, j'en sais rien en fait. Qu'est-ce qu'on apprend? Vous savez ce qu'on apprend ici, mes amis? Écoutez bien. La théologie, c'est important. La théologie, c'est important. Ce que tu crois, et ce que tu suis peuvent changer ton destin éternel. Acte 17, 11, un de mes versets préférés, j'arrête avec ça, dit ceci. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes amis, soyons un peuple de la parole de Dieu et ne nous faisons pas leurrer. Amen. Seigneur, Seigneur, merci de tout cœur. Ces textes sont tellement tétanisants, Seigneur, ils font peur. Voilà les chefs religieux de l'époque, Seigneur, voués à l'enfer par le Fils de Dieu. Seigneur, moi je te demande de m'examiner moi et de nous examiner chacun et chacune, Seigneur. Examine nos mobiles. Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes droits. Nous devons glorifier le nom de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes humbles, corrigibles, Seigneur. Et si nous devons aller nous corriger les uns les autres, Seigneur, que ça se fasse et que nous puissions accepter ces corrections. Seigneur, nous te remercions pour la grâce qui est la tienne, pour le salut qui est en Christ. Et Seigneur, on verra la semaine prochaine, dans la fin des temps, Seigneur, il y aura de plus en plus de faux prophètes qui essaieront même d'éloigner les élus de la vérité, Seigneur. Ces choses sont importantes. Seigneur, aide-nous à réfléchir, à lire, à examiner, à aimer la théologie, Seigneur. Et pardonne-nous pour nos erreurs. Seigneur, à toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.